Bonjour Hervé.
Bonjour.
Pour ouvrir cette revue de presse, la visite annoncée dans une semaine du président chinois qu'Emmanuel Macron accueillera dans les Hautes-Pyrénées.
Et la Dépêche du Midi se réjouit d'avance de cette rencontre au sommet au pluriel. Le journal consacre toute sa une à cette visite qui doit célébrer les 60 ans de relations diplomatiques entre la France et la Chine. L'Élysée l'a annoncé hier matin en précisant que le président recevra Xi Jinping au col du Tourmalet, haut lieu de la culture sportive française. La Dépêche du Midi souligne que c'est aussi un site qui tient particulièrement à cœur au président et à son épouse qui ne perdent jamais une occasion de venir skier à la Mongie. C'est là, à la Mongie, que enfant, Emmanuel Macron passait des vacances auprès de sa grand-mère Manette, s'émeut la Dépêche, au point que les banquettes du télésiège ont été recouvertes de bleu, blanc, rouge.
Le quotidien régional décrit l'arrivée des premiers émissaires chinois sur les montagnes pyrénéennes.
Pluie, brouillard et quelques plaques de neige dans le crachin, de rares touristes marchent sans prendre garde au balai de minibus noirs aux vitres fumées qui passent et repassent. L'équipe chinoise a pris ses quartiers dans deux hôtels de la Mongie. Des gens très respectueux, discrets, professionnels, dit une voisine. Macron invitera son hôte à l'étape du Berger, le restaurant d'altitude tenu par son ami Eric Abadie. Croit savoir la Dépêche l'occasion de lui faire goûter les meilleurs produits des terroirs de Bigorre. Mais il faudrait prendre le téléphérique, puis un hélicoptère. Les services de sécurité ne sont pas fans de l'idée. La voiture blindée du président chinois arrivera par avion spécial, mais comment la décharger? Les chasse-neige sont prêts pour lui dégager la voie. On ne sait pas s'il existe des chaînes spéciales pour équiper le véhicule.
En première page du Parisien, d'autres problèmes de transport avec la fermeture de l'autoroute A13.
Quel chantier, titre le Parisien, alors que les fissures découvertes sur l'autoroute continuent de perturber la circulation en Île-de-France, au moins jusqu'au 11 mai d'après le journal. Selon le Canard enchaîné, c'est le président du département des Hauts-de-Seine, Georges Siffredi, qui en faisant creuser un parking sous un mur de soutènement aurait provoqué les fameuses fissures. Pour ne rien arranger, le Parisien souligne que c'est tout le réseau routier français qui se fissure. 1 100 000 km mal entretenus par les collectivités qui entretiennent mal donc et réparent au dernier moment, ce qui coûte encore plus cher. En 2012, la France était en tête du classement des infrastructures routières du World Economic Forum. Depuis 2019, elle a dégringolé au 18e rang.
Dans ces conditions, peut-être vaut-il mieux éviter les routes et prendre le train.
C'est le choix de Libération qui a envoyé deux reporters traverser l'Europe en chemin de fer pour expérimenter l'effacement des frontières. Berlin, Prague, Vienne, Venise, 6000 km en une dizaine de jours avec un pass Interrail à 476 €. Pour Libération, c'est une façon de montrer que l'Europe peut encore nous transporter, au propre et au figuré, et préserver l'environnement. Si vous êtes plus pressé, il reste le TGV. Les nouvelles rames ont été dévoilées hier à Belfort. Le quotidien L'Alsace y consacre sa une. Sauf que le train du futur n'a montré que le bout de son nez, certes très long, car le Figaro nous l'apprend, il ne sera pas en service pour les JO comme prévu à l'origine. La SNCF qui a payé 3,5 milliards d'euros à Alstom pour 115 rames n'en aura que 4 ou 5 en 2025, 9 en 2026 si tout va bien. D'ici là, les trains resteront bondés et les billets très chers. Pas de quoi donc être transporté de joie.
L'argent, lui, ignore les frontières. De grandes banques européennes sont restées en Russie malgré la guerre d'Ukraine et les sanctions internationales.
C'est une enquête du Financial Times qui le souligne. On en trouve un condensé sur le site slate.fr. Non seulement les banques de l'Ouest sont restées, mais elles en ont bien profité. Et la Russie aussi, figurez-vous. Les 7 banques les plus engagées en Russie, une autrichienne, 2 italiennes, une néerlandaise, 2 allemandes et une hongroise, ont perçu plus de 3 milliards d'euros de bénéfices en 2023, 3 fois plus qu'en 2021. Elles ont en fait tiré parti des sanctions occidentales, écrit le FT, puisque les banques russes n'ont plus accès au système de paiement internationaux. Vladimir Poutine, qui ne perd pas le Nord, leur a imposé un prélèvement exceptionnel, si bien que les banques européennes ont payé 800 millions d'euros de taxes à la Russie l'an dernier. Cela représente 0,4% des rentrées budgétaires russes hors énergie. Et c'est ainsi, écrit le Financial Times, que les entreprises étrangères étrangères aide le Kremlin à maintenir sa stabilité financière malgré les sanctions internationales.
On termine avec une légende de la Formule 1. Le 1er mai 1994, il y aura 30 ans demain, le pilote brésilien Ayrton Senna se tuait au volant de sa voiture sur le circuit d'Imola. La presse lui rend hommage.
Déjà un hommage sonore.
C'est un moteur électrique ça ou un moteur à essence ?
Ah non, des vrais Formule 1. Et donc cet hommage est à retrouver particulièrement dans Ouest France et dans Le Figaro qui livre de longs récits à la fois nostalgiques et dramatiques. Le circuit du Grand Prix de San Marin est devenu un lieu de pèlerinage. Une statue de bronze d'Ayrton Senna est là dans le virage de Tamburello où il trouva la mort à 212 km/h. Pour rappeler le drame, 212 km/h, c'est moins que le TGV, mais c'est beaucoup quand même en cas d'accident. Le matin du départ, il y avait un climat morbide. Je me suis dit, un pilote va mourir, raconte dans Ouest France le journaliste de l'équipe magazine Philippe Brunel. J'ai remonté la grille de départ, pilote par pilote, en fixant leur visage pour savoir à qui correspondait mon pressentiment. Je suis arrivé devant Ayrton Senna, pâle, livide, le casque posé sur la voiture comme un masque funéraire, et je me suis dit, il ne devrait pas prendre le départ. Ce jour-là, plusieurs témoins ont ressenti la même chose. Mais quand on est Senna, on ne peut pas dire qu'on a peur, explique Brunel. Senna est mort d'être Senna. Il est mort d'être ce personnage mythique qu'il a fabriqué, qui l'a empêché d'être raisonnable. Demain, à Imola, le circuit bien nommé, on célébrera moins la mort d'un pilote que la naissance d'un mythe.
Hervé Gattegno, la revue de presse qu'on retrouve demain. Vous m'avez coupé, tout est fait. Vous m'avez un peu déprimé en parlant d'Ayrton Senna comme
mais
ça.
Mais non, les légendes, ça n'est pas
champion.
Déprimant.
Oui, voilà, vive la naissance d'une légende. Merci Hervé.